Nous allons reprendre dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. C'est page 232 dans la Bible à la colombe. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité, le Seigneur fait justice de tout cela. Nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Paul écrit à ses chrétiens de l'église de Thessalonique, une église qu'il a fondée lors de son deuxième voyage missionnaire et dans laquelle il n'est resté apparemment, d'après le texte que nous avons déjà vu, que quelques semaines. Et il les a enseignés dans bien des domaines. Nous verrons la prochaine fois qu'il leur a parlé du retour de Jésus-Christ. Ce qui montre que c'est un sujet qui n'est pas seulement pour les étudiants en théologie, mais c'est quelque chose d'essentiel qu'il enseignait à ses disciples, aux disciples de Jésus qu'il avait vu se convertir en quelques semaines. Ici, il leur demande d'apprendre à marcher. Il les encourage, il veut les reprendre. Et souvent dans la Bible, on retrouve cette illustration que la vie du chrétien, c'est comme une marche. Il y en a, je sais, parmi nous qui aiment bien les randonnées, qui aiment bien marcher. Pourquoi est-ce que la conduite du chrétien, la vie du chrétien peut-elle être comparée à une marche? Toute randonnée, que ce soit pour aller à Vaugrenier ou dans le Mercantour, ça commence par un premier pas, un pas de foi. Et la vie du chrétien, elle commence toujours par ce premier pas de foi, et puis elle se vit après pas à pas. La vie du chrétien ne peut pas être vécue si la personne est morte. Il y a besoin de vie. Un pécheur qui est mort ne peut pas marcher. Par définition, si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes morts spirituellement. Et il n'est pas question de marcher après Jésus-Christ, de marcher comme un chrétien. Il faut la vie. La marche du chrétien, ça exige la vie. La vie, la deuxième vie, la vie qui vient d'en haut, celle qui vient lorsque nous acceptons le Seigneur comme notre sauveur et que nous lui remettons notre vie comme à notre maître. On ne peut pas marcher, un enfant ne marche pas tant qu'il n'y a pas eu une certaine croissance. il y a quelques mois encore, Dina, on la mettait par terre, elle ne bougeait pas. Jessaline, la même chose. On pouvait la mettre quelque part, et Ellie était tranquille. Du moment qu'elle pouvait pas tomber, elle savait qu'elle pouvait répondre au téléphone, appeler ses amis, sans se soucier de Jess. Au bout de quelques semaines, quelques mois, au bout d'un an pratiquement, la personne, le bébé commence à marcher. De la même façon, un chrétien a besoin de croissance pour commencer à marcher. Ça prend un certain temps, mais relativement vite, le chrétien, la personne, commence à marcher. On ne peut pas marcher si on a des chaînes aux pieds. On a chanté ce chant de Thierry Ostrini, « Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi ». Et lorsqu'on veut éviter que des prisonniers ne s'échappent, on leur met des entraves, on leur met des chaînes aux pieds, et même s'ils veulent partir en vitesse, ils ne peuvent pas aller très vite. Pour que nous puissions marcher, il faut que nous prenions conscience que lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous sommes libres de nos chaînes, nous n'avons plus à pécher, nous sommes libres de marcher avec Dieu. Pour marcher, il faut pouvoir voir où on met les pieds. Il y a quelques années, mes fils avaient participé, peut-être quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre vous ont participé, je crois que ça s'appelle la randonnée des illuminés, ou les illuminés de... Comment ça s'appelle, Tonio? Comment? Les allumés de la pleine lune. Et l'intérêt, c'est que ça se passe la nuit. Et là aussi, normalement, il y a la pleine lune, mais tout le monde prend une lampe pour pouvoir marcher et voir où ils mettent les pieds. De la même façon, lorsqu'un chrétien commence à marcher, c'est la lumière de la parole, c'est la lumière qui l'éclaire, la lumière qui est une lampe à ses pieds, une lumière sur son chemin qui l'aide à marcher. La marche du chrétien n'est pas secrète. Tout le monde doit pouvoir voir le chrétien marcher. Finalement, la marche suggère toujours qu'on a un but, sinon c'est de l'errance. Marcher sans but, c'est tourner en rond, c'est être perdu. Il y a un but dans la vie chrétienne. Non seulement il y a un but, mais il y a cette idée d'aller vers quelqu'un en marchant avec lui. L'idée de marcher avec Jésus, c'est la marche du chrétien. Finalement, toute marche, c'est pour ça que certains n'aiment pas les randonnées, c'est que ça demande un effort, ça demande de la persévérance, ça demande de l'énergie, ça demande de la persévérance, de l'énergie, une détermination. Nous avons eu l'occasion de faire une super randonnée aux États-Unis en suivant un sentier qui longe la plage du Pacifique sur la péninsule, on appelle la péninsule olympique. On a les montagnes d'un côté, d'autre côté on a l'océan Pacifique. Et nous avons fait cette marche avec mon beau-frère qui nous a conduit à Christ il y a plusieurs années, un ancien bûcheron sportif qui a monté le mont McKinley quand il avait 18 ans. Et c'est il a plus de 50 ans, mais il continue à être très, très énergique. Il continue à faire beaucoup de choses en plein air, dans la nature. Il a monté tous les sommets de chacun des 50 États américains, sauf Hawaï. Il a monté le mont McKinley, le plus haut sommet des États-Unis, plus de 6000 mètres quand il avait 18 ans. Et il continue à marcher très vite. Et j'ai même mis quelques vidéos sur Facebook. Et quand on marche avec lui, on chôme pas. Il a un but, et tant qu'il a pas atteint le but, il n'y a pas le temps pour regarder les cailloux sur la plage ou les poissons dans les bassins qui se forment à marée basse. On marche et on fait un effort. Alors je dis pas que ce soit la meilleure illustration de la vie du chrétien, parce que c'est vrai, on marche, mais on doit aussi pouvoir apprécier la randonnée. Je crois que c'est essentiel d'avoir ce but et en même temps de se réjouir de ce qu'on progresse avec Jésus vers une destination qui est pour l'éternité, une destination, une présence, être en présence de Dieu pour toujours avec Jésus. C'est une merveilleuse destination. Tout ça pour dire que Paul utilise cette belle métaphore de « nous avons appris comment vous devez vous marcher et plaire à Dieu ». C'est très important de comprendre que lorsque l'on devient chrétien, on prend un tout autre type de repère. On a des priorités qui sont complètement différentes de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui ne vont pas vers lui. L'homme naturel cherche à se faire plaisir à lui-même. C'est ce qui motive les hommes et les femmes autour de nous. Même les actions altruistes sont souvent des raisons de se conforter dans nos agissements un peu égoïstes. On va donner aux associations caritatives pour ne pas avoir mauvaise conscience et profiter davantage des choses que nous pouvons avoir, des choses égoïstes, des plaisirs égoïstes que nous pouvons prendre. Alors ces choses ne sont pas mauvaises nécessairement en soi, nous avons des besoins. Nous ne pouvons pas aider les autres tant que nous n'avons pas satisfait certains besoins. Nous avons besoin de nourriture, de santé. Mais même sans ces besoins, nous devons avoir cet amour pour les autres qui prend la précédence sur l'amour de nous-mêmes. La chose la plus importante, c'est au niveau spirituel, pour pouvoir aider les autres, c'est déjà de se nourrir soi-même. Chaque fois que je prends l'avion, ça me rappelle l'idée que on ne peut pas offrir aux autres, témoigner aux autres ce que l'on ne vit pas soi-même. Lorsque l'hôtesse de l'air vous explique, ou les stewards ou les stewardesses vous expliquent que en cas de dépressurisation, il va y avoir des petits casques à oxygène, des petits masques à oxygène plutôt, qui vont tomber, et ils vous disent toujours « respirez d'abord avant de passer le masque à quelqu'un d'autre, à vos enfants notamment ». Quelque part, je trouvais, c'est bizarre, d'abord on dit « les enfants, c'est eux qui vont avoir du mal ». Mais on nous prévient « respirez d'abord, vous pouvez pas donner si vous expirez ». Si vous mourrez avant d'avoir pu passer le masque, ça va pas être seulement une personne qui va mourir, mais deux au moins. Et donc cette idée, c'est aussi la seule chose où l'égoïsme est peut-être de mise, c'est de cultiver sa propre relation avec Dieu, pour que ce soit un débordement de cette relation qui nous fasse aller vers les autres. Il y a une très belle citation que j'ai trouvée aussi par l'intermédiaire d'un ami qui dit que l'évangélisation, c'est pas un effort, c'est un débordement. Lorsqu'on est convaincu de la vérité, de l'amour, de la préséance, de l'importance capitale de la relation avec Dieu, à ce moment-là, on parle du cœur et on n'a pas à à se forcer à témoigner, ça vient naturellement. Et la chose importante, c'est que lorsqu'on devient chrétien, on cherche avant tout à plaire à Dieu. Ça devient votre priorité. Vous vous levez le matin et vous dites, Seigneur, comment est-ce que je peux te plaire ? Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque on est dans une communauté où les gens vivent ainsi, on est béni. Parce que je vais chercher à plaire à quelqu'un, à Dieu, en faisant du bien à l'autre. L'autre va vouloir plaire à Dieu en me faisant du bien. Et on se retrouve à une bande de gens qui veulent se faire du bien les uns les autres. Au lieu d'être chacun à vouloir garder égoïstement ce que nous avons, ce que nous possédons, ce qui nous a été donné par Dieu et par nul autre, nous donnons. Et c'est pour ça que c'est tellement important la générosité chez le chrétien. Parce que c'est ce qui fait que la communauté des chrétiens est un monde qui brille et qui attire. Les gens autour de nous ont soif de cet amour, de cette absence d'égoïsme foncier qui est la vraie marque de notre société, qui est un des ressorts de l'économie. Achetez-vous ce nouvel ordinateur, cette nouvelle tablette, ce nouveau téléphone, cette nouvelle voiture, cette nouvelle maison. Et si Apple va bien, l'économie va bien. Si l'économie va mal, c'est que les gens n'ont plus d'argent pour satisfaire leurs besoins égoïstes. En Jésus, que Paul demande ces choses à ses frères à Thessalonique, nous vous y exhortons. Le mot exhorter en français a des fois donne l'impression de parler de haut et donc d'engueuler, pour être poli, les gens en leur disant il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a davantage l'idée d'encourager parce que c'est la chose qui est bien, c'est la bonne chose à faire. C'est d'expliquer pourquoi c'est bien, c'est de conduire, c'est d'inciter. Nous sommes invités à nous inciter les uns les autres aux bonnes œuvres. Nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. C'est pas une idée de Paul comme ça farfelue, c'est l'enseignement même de Jésus-Christ. Nous devons marcher, nous devons vivre, nous devons nous conduire pour plaire à Dieu. Paul les encourage en leur disant qu'ils font déjà ça assez bien. D'ailleurs, vous le faites. Et là, il les pousse encore un peu. Eh bien, progressez encore. On a vu au verset 10, un peu plus loin, il leur dit la même chose. Vous faites déjà bien. Vous êtes bon envers vos frères dans la Macédoine entière. Vous faites du bien autour de vous. Mais progressez encore. Tout ça pour dire que de ce côté de l'éternité, avant notre mort, le chrétien n'arrive jamais à un état final où il peut dire « ça y est, je me repose, j'ai atteint le but ». Paul lui-même disait qu'il n'avait pas atteint le but, mais qu'il courait pour atteindre ce but, la vocation céleste en Jésus-Christ. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » Intéressant, c'est le concept de marche souvent c'est poussé au concept de course. Paul était un grand amateur de sport et il utilisait souvent les illustrations sportives. On pense qu'il avait dû assister aux jeux, équivalent des Jeux Olympiques à l'époque. À Corinthe, il y avait des jeux sportifs, athlétiques. Et cette image du dépassement de soi-même pour arriver à gagner le but, à gagner la couronne, c'est une autre métaphore qui est encore plus forte que la marche. Mais nous y reviendrons. Ne croyez jamais que vous allez atteindre un plateau dans votre vie chrétienne. Quand vous regardez en arrière, vous dites peut-être j'ai fait beaucoup de progrès, mais ne pensez jamais que ça y est, vous pouvez vous reposer sur vos lauriers. Et ça, c'est valable pour le jeune chrétien comme le saint qui a pu vivre avec le Seigneur pendant 50 ans, avoir été utilisé pour faire de grandes choses pour Dieu. Nous avons toujours de la marge pour progresser avec Dieu. Verset 2, vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Encore une fois, Paul précise bien que son enseignement, c'est pas un enseignement personnel, mais que ça vient de Jésus lui-même. Et je vous invite, comme Paul le faisait en disant que les Béréens étaient meilleurs que les habitants de Thessalonique parce qu'ils allaient vérifier dans les Écritures si ce que Paul leur enseignait était la vérité. Ne prenez jamais comme argent comptant ce que l'on vous enseigne, ce que je vous enseigne. Allez voir si ça correspond à la parole de Dieu, si c'est vraiment de la part du Seigneur Jésus. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous êtes à même de le faire, vous avez la parole. Si vous venez à Christ, le Saint-Esprit est en vous qui peut vous aider à discerner le vrai du faux. Et simplement le bon sens vous montre en lisant la parole, pas d'autres livres, si c'est la vérité ou pas. Paul insistez toujours pour dire ce que je vous dis, ça vient pas de moi, ça vient de Dieu lui-même, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On entend souvent parler de la volonté de Dieu, les gens ont soif de connaître la volonté de Dieu, et bien souvent, on a l'impression que c'est un grand mystère. C'est souvent dans le cas où nous avons des décisions à prendre, qui impliquent un choix pour une occupation, pour l'offre d'un travail, pour un déménagement, pour un endroit, pour une personne à épouser ou non. Et là, on voudrait que Dieu nous réponde tout de suite, mais Dieu nous donne dans sa parole plusieurs passages où il nous dit « voilà la volonté de Dieu ». Et je crois que lorsqu'on recherche sa volonté dans des situations précises, on ne peut pas trop s'attendre, encore que Dieu puisse nous bénir par sa grâce. Mais je pense que Dieu s'attend à ce qu'on fasse déjà sa volonté dans les choses qu'il a clairement révélées. Un peu plus loin, on verra dans 1 Thessaloniciens 5, 18. En toutes circonstances, rendez grâce, remerciez. Pourquoi ? Parce que car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. D'avoir un esprit de reconnaissance, de gratitude pour les choses qui nous arrivent, c'est la volonté de Dieu. Peut-être c'est pour ça que l'Évangile a du mal à progresser en France. Les Français font de la rouspétance, de râler un sport national. On est toujours en train de nous plaindre, jamais de remercier le Seigneur pour les bonnes choses qu'il a données à la France. Pour un climat tempéré, pour une culture, pour des ressources suffisantes, pour des même un système d'aide sociale qui permet à beaucoup d'être pris en charge. Non, on se plaint toujours parce qu'on n'a pas plus que ce qu'on a déjà. Dieu veut que nous ayons une attitude de reconnaissance. Ce qui est merveilleux, c'est que quand nous avons cette attitude de reconnaissance, elle nous remplit de joie. C'est la fameuse histoire du verre plein à 50%. Est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein? C'est ridicule, c'est simple, c'est trivial, et pourtant c'est une grande réalité. Ce que Dieu nous donne, est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous le remercions? Ou est-ce que nous rouspétons parce que nous voulons plus et que nous méprisons ce qu'il nous a déjà donné? Est-ce que je suis émerveillé par la grâce de Dieu? Est-ce que je pense en le remerciant à toutes les bonnes choses qu'il nous a données? Toutes bonnes choses viennent de Dieu. Du Père des Lumières en qui il n'y a ni ombre ni variation de lumière. Toutes les bonnes choses dans votre vie viennent de Dieu. Est-ce que vous en êtes conscient? Les amis, la famille, la santé, la capacité de réfléchir, la capacité d'appréhender les choses, de se poser des questions, de se reposer, de travailler, d'avoir toutes ces capacités. Est-ce que vous pensez à dire merci à Dieu? C'est sa volonté. On rouspète toute la journée, puis on lui demande de nous dire quelle est sa volonté. Et quelque part, il nous dit, attends, je t'ai déjà dit et tu ne l'as fait pas, pourquoi t'en donnerais-je davantage? La grande volonté de Dieu, 1 Timothée 2, 3 et 4, Paul exhorte Timothée et tous ceux qui lisent la lettre à prier pour tous ceux qui sont dans des positions de responsabilité. Et il ajoute, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut, sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est pour ça qu'il faut prier pour nos frères mauritaniens, pour nos frères musulmans, pour nos voisins, nos familles, pour tous ceux qui nous entourent, pour ceux dont nous entendons parler, qui souffrent pour leur foi. Dieu veut, c'est sa volonté. Et ici, quelque chose d'essentiel, Dieu veut notre sanctification. Il veut que nous abstenions de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité, le Seigneur fait justice de tout cela, nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu, il rappelle, il répète, il insiste, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. L'inconduite, en grec, c'est le mot porneia, qui nous a donné le mot pornographie. Ça veut dire toute inconduite de type sexuel, tout ce qui n'est pas correct devant Dieu en matière de sexualité. On a une vue très corrompue, très polluée de la sexualité dans notre société. On peut, en fait, dans ce passage, voir que dans la vie du chrétien, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir du sexe et de la sainteté à la fois. Le sexe, c'est l'idée de Dieu. J'aime bien dire que Dieu aurait pu choisir pour l'homme une reproduction de type asexué, sans sexualité. Certaines plantes, les géraniums par exemple, ont une reproduction par bouture. Il n'y a pas de pornographie chez les géraniums. Pourquoi ? Parce qu'on coupe un bout de géranium, on le plante dans la terre, et Dieu fait que, dans son choix, un autre plant de géranium va pousser. Dieu a choisi la reproduction sexuée pour certaines espèces animales, pour la plupart des espèces animales, bien que chez certaines espèces animales, le rôle du mâle et de la femelle soit intervertible, ce qu'on appelle les hermaphrodites, de Hermès, le dieu de la guerre des Grecs, et Aphrodite, le dieu de l'amour, la déesse de l'amour plutôt, une reproduction homme-femme, ça c'est chez les escargots. Je sais pas s'il y a de la pornographie chez les escargots, mais il n'y en a pas chez les géraniums. Et Dieu a choisi que chez l'homme et la femme, il y ait cette relation sexuée. C'est l'invention de Dieu. Ce qui est terrible, c'est que le diable, qui pervertit toute bonne chose qui vienne de la part de Dieu, l'a pervertie au point que c'est devenu un sujet de corruption majeure dans la société humaine. Dieu a implanté une forte pulsion sexuelle chez les hommes, chez les femmes, peut-être pour assurer la reproduction de l'espèce, disent certains, quoique les géraniums ont continué jusqu'à aujourd'hui sans qu'il y ait ce désir très fort de sexualité. Mais il y a des analogies dans la Bible, dans Éphésiens 5 justement, qui comparent la relation entre l'homme et la femme à leur relation entre Christ et son Église. Je crois que l'intimité qu'on trouve dans la sexualité, dans le mariage, la passion amoureuse qu'il y a dans le mariage, qui est une belle chose, c'est une idée, une préfiguration de la relation de l'homme sauvé avec son sauveur, de l'Église, de la communauté des saints, de ceux qui ont appelé Dieu leur sauveur et qui sont sauvés par son sacrifice, qui l'ont accepté, embrassé. C'est un type de la relation émotionnelle, très forte, fusionnelle, que l'on trouve dans la relation sexuelle lorsqu'elle se place dans le cadre voulu par Dieu, qui est le cadre du mariage. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est loin de cet idéal de la sexualité voulue par Dieu et que on vit dans un monde qui est accaparé, qui est complètement obnubilé par la sexualité, au point où on peut pas voir une pub sans avoir des images suggestives. Il suffit de prendre n'importe quel magazine, de se promener en ville, de voir des publicités sur les panneaux publicitaires, de voir la profusion de films à caractère sexuel pornographique, de voir les livres qui décrivent des relations immorales, toutes ces choses-là, c'est devenu une source de péché qui nous éloigne de l'idéal de Dieu et qui font que l'homme vit en dehors de la volonté de Dieu, car ils ne cherchent pas la sanctification. La sanctification, c'est un mot qui veut simplement dire être mis à part pour Dieu. C'est d'être séparé. Vous connaissez peut-être la plaisanterie qui dit, vous demandez à une personne, est-ce que tu connais la différence entre une casserole et un pot de chambre? Et souvent les gens disent, non, je sais pas. Et vous leur répondez, bon ben je viendrai pas manger chez toi. L'idée c'est que si les gens ne font pas la distinction entre ce qui est pour un certain usage et pour un autre usage, on ne va pas leur faire confiance. Les casseroles sont mises à part pour la cuisine. La sanctification, c'est le fait que lorsque vous appartenez à Christ, vous êtes mis à part pour le servir. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, qui est le dieu de l'argent, mais vous ne pouvez pas servir Dieu et Eros, le dieu de l'amour érotique. Vous ne pouvez pas avoir d'autres dieux, vous devez être mis à part pour Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que à l'époque de Paul, il y avait les mêmes problèmes déjà. On a l'impression que la liberté des mœurs aujourd'hui est quelque chose que des siècles et des siècles de civilisation nous ont enfin apporté, que nous avons fait de tels progrès qu'aujourd'hui nous pouvons faire n'importe quoi dans ce domaine. Mais déjà à l'époque de Paul, dans la société grecque et dans la société romaine, l'immoralité sexuelle était la norme, au point que Démosthène, un philosophe, un écrivain grec, disait déjà que nous entretenons des prostituées, c'était le mot « étaïr », qui est un vieux mot utilisé en français aussi pour dire des femmes que l'on paye pour des plaisirs sexuels, nous entretenons des prostituées pour notre plaisir, des maîtresses pour les besoins de nos corps, et des épouses pour être les mères de nos enfants et les fidèles gardiennes de notre intérieur. Donc déjà à l'époque, les hommes entretenaient des maîtresses, avaient des femmes pour avoir des enfants et des familles à qui ils les confiaient, mais ils allaient aussi payer des prostituées. C'était l'idée d'une relation passagère, monnayée. Des maîtresses, c'était quelque chose de plus constant. Et ça, c'était à l'époque gréco-romaine. De tout temps, il y a eu cette perversion de la sexualité, de façon plus ou moins ouverte. On parle aujourd'hui de l'ère victorienne, où sans doute ces choses se passaient, mais n'étaient pas dites au grand jour et étaient plus discrètes. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on n'est plus des hypocrites et qu'on fait tout et n'importe quoi au grand jour. On fait de l'argent en vendant de la pornographie. On fait de l'audimat en organisant des émissions de télé-réalité où les gens se conduisent comme des bêtes. Il y a des couples mariés qui viennent voir si leur mariage est fort en étant tentés par d'autres personnages masculins ou féminins suivant les, sans doute, hétéro et homosexuel, je sais pas trop. Notre société est loin de la volonté de Dieu. Ce qui est le plus terrible, c'est lorsque le chrétien est loin de cette volonté et qu'il ne s'élève pas à la sanctification. Dieu veut que nous abstenions. C'est un effort. C'est une détermination, qui prend de l'énergie et de la patience. Souvent, lorsque nous devenons chrétiens, nous avons un passé de faiblesse dans ce domaine et nous devons demander à Dieu de nous aider à devenir purs, à devenir saints, mis à part, à nous abstenir de cette pornéia, de cette inconduite. Il dit, c'est très intéressant, que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le mot qui est traduit ici par « corps », en fait, c'est le mot qui désigne un vase en grec. Et il y a un débat chez les commentateurs pour savoir si ce corps, c'est la femme du mari, l'épouse du mari, ou bien est-ce que c'est notre propre corps. Je tends à penser que c'est savoir nous contrôler nous-mêmes, parce que Paul s'adresse aux gens mariés comme aux gens non mariés. Dieu réserve la sexualité et en fait une chose belle et pleine de bonheur, de joie, dans le cadre unique du mariage. Je sais que c'est ringard aujourd'hui de parler de sexualité uniquement dans le domaine du mariage, mais c'est la volonté de Dieu. Certains disent, oui, mais c'est ton interprétation. Si on n'est pas marié, on a quand même des besoins physiques. Tout le monde le fait. Je veux pas paraître rétrograde, je veux pas être mis à l'index, vu comme quelqu'un d'obscurantiste. Un verset, 1 Corinthiens 7, 9. À ceux, verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Paul dit que si on est célibataire et que c'est pas un problème, c'est très bien de rester célibataire parce qu'on n'est pas pris par les devoirs de la personne mariée envers son conjoint, envers sa famille. Ça laisse beaucoup de temps libre pour servir Dieu à temps plein. Et il ajoute, mais s'ils manquent de continence, c'est-à-dire s'ils ont du mal à contrôler leurs impulsions, leurs pulsions sexuelles, il leur dit pas qu'ils aillent voir des petites amies, qu'ils aillent voir des prostituées, il leur dit qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que brûler. Et le mot de brûler, ça peut être brûler de passion sexuelle. Ça peut vouloir dire aussi que ceux qui vivent dans l'inconduite sexuelle finiront par brûler. L'enfer, c'est un lieu réel. Et tout ce qui est question de volonté de Dieu qui est bafouée, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu font la volonté de quelqu'un d'autre. Et si nous continuons à faire la volonté de cet autre, nous irons là où il va. Encore une fois, le mariage, c'est le cadre choisi par Dieu pour vivre la sexualité qu'il a inventée, avec laquelle il veut vous bénir. Encore une fois, malheureusement, beaucoup de chrétiens ont du mal dans ce domaine et ne sont pas plus consacrés à Dieu et à la sanctification que le monde qui nous entoure. Beaucoup d'expériences sexuelles en dehors du mariage chez les jeunes chrétiens, chez les moins jeunes, beaucoup de pornographie chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens. Beaucoup de divorces chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens, malheureusement le même taux. Et alors que Dieu voudrait que l'Église soit un modèle, souvent c'est le monde qui est un modèle pour l'Église, où les gens disent, Tout le monde le fait. Pourquoi est-ce que je résisterais à ces choses? C'est naturel. C'est bon pour la santé. Sinon, je vais être refoulé sexuellement. Et Freud a dit que c'était très mauvais. Jésus vous dit que c'est très bien de vous abstenir de l'inconduite en dehors du mariage. Est-ce que vous allez faire confiance à Freud ou à Jésus? Cette prescription est vraiment quelque chose qui ne peut pas être respecté en dehors de l'Esprit Saint. Nous avons besoin pour cette sanctification de laisser l'Esprit agir en nous. Nous pouvons nous tourner vers lui quand nous sommes tentés. Et il dit que les païens qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas se contrôler. Les chrétiens qui ne connaissent pas Dieu sont comme des animaux, ils ont envie, ils le font. Du moment que l'autre adulte, ou le plus jeune des fois, est consentant, alors il n'y a plus de restreinte. Verset 6 dit que personne en affaire n'use en faire son frère de fraude ou de cupidité. La traduction de cette version, la seconde révisée, semble parler du monde des affaires, du commerce, mais d'autres commentateurs, d'autres traductions continuent de parler de sexualité, ce qui paraît être logique, parce qu'au verset 7, il revient à dire « Dieu nous appelle pas à la pornéia, à l'impureté, à l'immoralité sexuelle, mais à la sanctification. » Et donc l'idée, c'est que lorsqu'on se livre à des relations sexuelles en dehors du mariage, on vole quelqu'un, on se livre, on use de fraude et de cupidité. On va faire du tort à l'autre personne mariée si on se livre à l'adultère. Si on a des relations sexuelles avec une autre personne mariée, si on se livre à des relations sexuelles avec une personne non mariée, c'est comme si on vole à l'autre personne qui peut-être un jour se mariera avec cette personne quelque chose de précieux. Et donc, la sexualité, certains se plaignent, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu as donner une si forte attraction sexuelle et des prescriptions si étroites, une seule personne pour la vie, alors qu'on a un grand désir sexuel? C'est une bonne question qu'on pourra peut-être poser un jour à Dieu. Je crois qu'il nous dira que c'est sans doute une image de la fidélité inconditionnelle qu'on doit à Jésus en tant que son épouse. Mais cette idée que c'est si difficile de rester fidèle, de pas se livrer à la sexualité en dehors du mariage, et on fait souvent appel au fait que c'est un besoin physique. C'est vrai, mais Dieu ne nous demande pas de ne pas boire d'eau tant que nous ne sommes pas mariés, parce que nous mourions. Il ne dédie pas « ne mangez aucun aliment tant que vous n'êtes pas marié ». Peu de personnes arriveraient au jour J du mariage. Par contre, il nous dit « parce que c'est possible de nous abstenir de sexualité en dehors du mariage ». Encore une fois, la tendance c'est de dire « oui, mais qu'est-ce que c'est qui constitue cette immoralité sexuelle ?» Il y a quelques années, un personnage célèbre aux États-Unis, la première personne du gouvernement, jurait devant Dieu qu'il ne s'était pas livré à des relations sexuelles avec une jeune personne parce qu'il n'avait pas consommé l'acte sexuel. Il s'était simplement livré à du sexe, à une sexualité orale avec cette personne. Toute activité sexuelle en dehors du mariage est immoralité sexuelle. Jésus a même placé le bouchon encore plus loin en disant que si on regarde quelqu'un, si on regarde une jeune femme ou une femme avec un désir sexuel, c'est comme si on avait déjà consommé l'adultère. Donc c'est pas seulement l'acte. Et peut-être certains d'entre nous se disent, bon, mais j'ai jamais péché en ayant une adultère. Peut-être d'autres l'ont fait. Dieu pardonne. Mais même de regarder avec envie, de regarder des films, de regarder de la pornographie, c'est une immoralité sexuelle. Verset 8, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Si on ne fait pas ces choses, si on dit c'est de la foutaise, j'en ai rien à faire, c'est pas réaliste, c'était bon pour les moines, mais on vit quand même au 21e siècle. On a la pilule, on a les préservatifs, on peut avoir le sexe protégé, etc. Non, ces préceptes ne rejettent pas un homme. Celui qui rejette ses préceptes, c'est la volonté de Dieu. Paul dit, c'est pas moi qui vous dis ces choses-là, c'est Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit-Saint. Le fruit de l'esprit, c'est le contrôle de soi. Lorsque nous avons des problèmes dans ce domaine, nous n'avons pas d'excuse de ne pas résister. Pourquoi ? Parce que Dieu nous dit que son Esprit Saint est là. C'est lui qui nous met déjà cette mauvaise conscience qui fait qu'on est obligé de bloquer et de plus penser à Dieu, de le mettre de côté, de fermer la porte et de faire ce qu'on veut. Nous avons l'Esprit Saint. Par contre, ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas cet Esprit Saint. Ils ne peuvent pas marcher dans la sanctification. Encore une fois, la sanctification, c'est un processus. Ce qui compte, c'est que on progresse dans ce domaine. On peut souvent être découragé parce qu'on retombe dans certains de ces péchés de la chair. Mais ce qui est important, c'est de le faire de moins en moins et aussi d'aller aussi rapidement que possible demander pardon à Dieu et de demander sa force. J'aime bien utiliser l'analogie de la qualité des mesures qu'on fait pour mesurer la qualité d'un ordinateur. C'est le temps moyen entre les pannes. Un bon ordinateur, c'est un ordinateur qui tombe pas souvent en panne. Si vous achetez un PC qui tombe en panne tous les ans, vous préférez acheter un Apple qui tombera en panne que tous les 3 ans. Ce qui compte aussi, c'est le temps de réparation. Si vous avez un ordinateur que vous devez envoyer chez le fabricant et qui reste 1 mois en réparation, vous allez lui préférer un ordinateur qui est réparé en quelques heures à distance par le fabricant. Et de la même façon, si nous avons des problèmes dans ce domaine, nous devons être encouragés par le fait que nous arrivons, avec l'aide de Dieu, à tomber moins en moins dans ces problèmes et aussi à être réparés rapidement. Être réparés rapidement, ça veut dire venir à Dieu, confesser ce qui est un péché, confesser cette convoitise qui est entretenue dans nos cœurs par nos regards. Vous vous souvenez, Job avait fait un vœu de ne plus regarder une jeune fille avec ses yeux. Nous pouvons, avec l'aide du Saint-Esprit, progresser dans la sanctification. La sanctification, c'est une part du salut. La première partie du salut, c'est la justification. Une fois que nous venons à Dieu, c'est momentané, c'est un instant. Du jour au lendemain, nous sommes sauvés. Nous ne sommes plus sous la punition du péché qui est la mort éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons le Fils, nous avons la vie éternelle. Le deuxième aspect de ce salut, c'est la sanctification qui consiste à devenir de plus en plus saint, à devenir de plus en plus pareil à Jésus. Et ça, c'est un processus qui dure toute une vie. Et finalement, il y a la glorification, le troisième aspect du salut, qui fait que nous sommes en présence de Dieu, que le péché est complètement plus en notre présence. La sanctification, c'est la fin de la puissance du péché dans nos vies. Finalement, la glorification, c'est l'absence de la présence du péché dans nos vies. Mais la sanctification, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu ne nous a pas appelés à la pornéia, mais à la sanctification. Nous vivons dans un monde où nous avons accès à Internet. Et en fait, des choses qui étaient restreintes du fait d'un manque d'information. Aujourd'hui, on peut penser à n'importe quoi, taper dans Google, voir des vidéos, voir des images, voir des explications, voir des sites qui font l'apologie de cette immoralité sexuelle. C'est un problème, surtout chez les hommes, je crois que c'est un problème chez les femmes. Il semble que les hommes soient plus visuels que les femmes. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas une mémoire photographique, nous avons ce qui est plus terrible, une mémoire pornographique. Des choses que nous avons vues dans notre première enfance ou dans notre adolescence peuvent être imprimées dans nos esprits pour le reste de notre vie. En tant qu'hommes, nous devons nous encourager les uns les autres à nous abstenir de ces choses. Je sais que c'est un problème pour beaucoup d'entre nous, la pornographie sur Internet. Et je prie vraiment que cette année, nous puissions, entre hommes, aborder ces sujets, prier les uns pour les autres, nous inciter aux bonnes œuvres. Il y a des aides, il y a des logiciels qui font que je peux savoir les sites sur lesquels vous êtes allés, vous pouvez savoir les sites sur lesquels je suis allé. Et je pense qu'entre nous, nous devons nous soutenir, ne pas masquer ces problèmes et penser qu'ils n'existent pas parce qu'on est chrétien. Paul invitait les Thessaloniciens à progresser dans ce domaine. Nous devons tous ensemble progresser dans ce domaine. Il ne doit pas y avoir de tabou. Nous devons avoir des personnes avec lesquelles nous nous sentons assez en confiance pour parler de ces problèmes, de ces tentations, confesser nos fautes les uns aux autres, demander l'aide du Saint-Esprit pour que nous fassions la volonté de Dieu. Je crois que beaucoup de chrétiens sont paralysés, c'est le but de Satan, de nous donner une mauvaise conscience dans ce domaine qui fait que nous nous sentons plus bons à rien. Nous sommes pas condamnés par l'Esprit Saint, mais condamnés par Satan. La conviction de l'Esprit Saint nous amène à demander pardon à Dieu et à marcher avec lui. La condamnation de Satan, c'est de dire, qu'est-ce que tu vas parler de Dieu? Pourquoi tu vas aller témoigner? Regarde encore ce que tu as fait l'autre soir, tu es allé sur Internet et tu t'es laissé aller sur des sites pornographiques. Qu'est-ce que tu veux? Comment oses-tu parler de Dieu alors que tu as l'immoralité dans ton cœur? Ensemble, nous pouvons marcher, nous pouvons progresser dans la sanctification. Rapidement, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. Encore une fois, c'est ce manque d'égoïsme. Lorsque nous nous aimons les autres, que nous disons non à notre égoïsme, à ce moment-là, nous représentons ce que Dieu veut que nous soyons, nous marchons avec lui, nous marchons dans sa volonté. Et là aussi, on n'a jamais fini d'être altruiste, de finir d'aimer les autres. On peut toujours voir l'image de quelqu'un qui est plus généreux que nous, qui s'oublie davantage que nous, mais même ces personnes peuvent encore faire des progrès. Et puis, il a cette parole au verset 11. Il nous demande de mettre notre honneur à vivre en paix, à nous occuper de nos propres affaires et de travailler de nos mains, comme il l'avait déjà recommandé, pour que nous nous conduisions honnêtement vers celui du dehors et pour que nous n'ayons besoin de personne. Il fait allusion au fait qu'à l'époque, les Thessaloniciens pensaient que Dieu allait revenir de leur vivant et ils quittaient leur travail et ils devenaient une charge, un fardeau pour leurs frères chrétiens, dans le sens où ils disaient j'ai abandonné mon travail, mais j'ai encore besoin de nourriture jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et ils avaient quitté la responsabilité de vivre pour eux-mêmes, de subvenir à leurs besoins, de mener une vie tranquille, de vivre en paix. Dans 1 Timothée, Paul exhortait au chapitre 2, verset 2, de proclamer des prières pour tous les rois et ceux qui étaient dans des positions supérieures, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. C'est intéressant que nous vivons dans une société, là aussi, où une vie tranquille, paisible, faite de piété, de plaire à Dieu et de dignité, c'est pas un idéal pour la plupart des gens de notre époque. Notre époque, c'est toujours plus d'adrénaline, toujours plus de choses passionnantes. Notre vie est faite d'événements excitants vers lesquels on va, et le temps entre ces événements, c'est comme un peu du temps perdu. On vit pour les vacances, on vit pour les loisirs excitants, on vit pour les rencontres, on vit pour les événements, et on oublie de vivre au jour le jour dans la piété, dans ce qui plaît à Dieu, dans la dignité, dans la sanctification, dans l'amour réciproque. Et il n'y a pas longtemps, on était avec l'équipe des jeunes de Seattle et le pasteur Craig avait dit que souvent, ce qui le frappait, c'était que Dieu nous appelait à une vie tranquille où règne l'amour. Et beaucoup de ces jeunes avaient du mal à être interpellés par ce message. Ils veulent une vie excitante, une vie faite d'événements passionnants où l'adrénaline est coule à flot. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous ayons des vies faites d'amour, de sanctification, d'absence d'égoïsme, d'amour les uns pour les autres, d'amour réciproque, de témoignage auprès des gens du dehors, qu'on satisfasse à nos propres besoins et qu'on travaille pour pouvoir bénir ceux qui sont autour de nous, même nos frères, les non-chrétiens. C'est une marche. Encore une fois, la vie chrétienne, c'est pas un sprint. Même si on peut marcher vite et ça devient une course, un marathon. Si c'est une course, c'est une course d'endurance. Et ça, c'est essentiel de le comprendre pour plaire à Dieu. Marchons pour plaire à Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous montre comment vivre au milieu d'un monde qui t'a rejeté, pour que nous soyons des lumières qui amenions la lumière dans les ténèbres. Seigneur, tu vois ce message tellement important sur la sanctification dans la sexualité que tu nous as donné, Seigneur. Aide-nous tous à être fort dans ce domaine. Aide-nous tous à marcher en nous soutenant les uns les autres. Merci Seigneur, parce que c'est pour le cadeau de la sexualité que tu nous donnes dans le mariage, qui est non seulement pour la progression, mais pour le bonheur des époux, Seigneur. Nous le voyons dans ta parole, dans le cantique des cantiques, Seigneur. Sachant aussi que c'est une préfiguration de la relation fusionnelle et passionnante que tu nous appelles à avoir avec toi, Seigneur. Donne-nous d'aspirer à des vies tranquilles faites de piété, c'est-à-dire de recherche de ton plaisir, Seigneur. D'absence d'égoïsme, de générosité envers les uns les autres et envers ceux du dehors. Seigneur, sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Que nos marches te plaisent et nous dirigent vers toi, avec toi, Seigneur. Qu'elles puissent commencer par ce premier pas dans la foi, d'être soutenues par ton Esprit Saint, les uns aussi par les autres. Que nous puissions nous inciter les uns les autres aux bonnes œuvres. Seigneur, sois glorifié dans ma vie, dans nos vies ensemble, dans cette église, dans les églises de la ville, de notre pays. Aide-nous à faire une différence pour toi dans ce monde qui est tellement perverti par la corruption de Satan, par la tentation à laquelle nos corps sont tellement sensibles et tentés, faibles, Seigneur, à résister. Sois glorifié. Apprends-nous, Seigneur. Montre-nous ton chemin. Merci pour ces paroles de l'apôtre Paul, inspirées par toi, pour nous reprendre et nous encourager. Donne-nous la force de ton Esprit Saint, les fruits de l'Esprit, pour marcher en te plaisant, pour te plaire. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.